Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour cette matinée, pour cette louange et pour aussi les jeunes de l'église de Casimir Perrier qui sont là. Seigneur, merci pour les liens qui se sont créés. Merci vraiment pour le beau temps qui a régné hier et aujourd'hui encore, pour la suite de la journée, pour le barbecue. Seigneur, vraiment bénis ces jeunes. Merci pour l'étude hier soir aussi qui, j'espère, a été vraiment utile et encore un jalon dans la réflexion de la musique, Seigneur. Merci parce que nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Et aujourd'hui, nous pouvons encore plonger notre regard dans la parole de la vérité, Seigneur. Et c'est comme un miroir, nous te demandons de nous révéler à nous qui nous sommes, Seigneur, et que ceux qui sont rachetés en Christ, que nous puissions voir la splendeur et la majesté du Seigneur dans nos vies. Et pour ceux ce matin qui ne connaissent pas Christ, qu'ils puissent voir la noirceur de leur propre péché, et qu'ils puissent voir aussi le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul qui peut les pardonner, les laver de leurs péchés. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Utilise ta parole comme tu le fais chaque dimanche, chaque jour de notre vie. Seigneur, à ta gloire, nous te remercions maintenant au nom de Jésus. Amen. Voilà, écoutez, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à 2 Timothée. Et figurez-vous que c'est la dernière fois que je vais dire ça, pour très très longtemps, parce qu'aujourd'hui, nous terminons notre étude de 2 Timothée. Timing pas mal, vous trouvez pas? Là, c'est vraiment le top avec l'été qui arrive. On termine aujourd'hui les derniers versets de 2 Timothée, après une série qui a duré des mois et des mois et des mois, de 1 et 2 Timothée. Alors, je vais simplement lire en premier ces versets et ensuite vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Juste pour vous dire, le titre de ce message est celui-ci, « Les alliés et les adversaires du ministère ». Les alliés et les adversaires du ministère. Et on va lire 2 Timothée 4, les versets 9 à 22. 9 à 22. C'est Paul qui écrit à Timothée, il dit ceci. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Et quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, et la famille d'Onicéphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Les alliés et les adversaires du ministère. Paul, comme vous vous rappelez si vous étiez ici, mais je vais réviser très brièvement si vous n'étiez pas là, Paul est en prison à Rome, et en fait son exécution est imminente. Au verset 6 du même chapitre, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » C'est ce qu'on appelle son deuxième emprisonnement. Il est à Rome, cette fois-ci pour la dernière fois. Son exécution est imminente. Il est intéressant de constater que pour un homme qui était avant tout un théologien, si je peux le dire ainsi, un érudit, qu'il réserve ses dernières paroles à évoquer le souvenir de personnes qui ont eu, d'une manière ou une autre, une influence positive ou négative dans son ministère. Et une des choses que nous apprenons dans cette liste impressionnante de personnes, c'est que Paul, et ça c'est peut-être surprenant, mais peut-être pas, est un homme intensément personnel et sociable. Il aimait les gens. Il passait beaucoup de temps avec les gens. Et ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que ses relations étaient vraiment multifacettes. D'un côté, nous apprenons qu'il avait des amis très proches, très loyaux, des amis sur qui il pouvait compter à n'importe quel moment. Mais nous apprenons qu'il avait aussi investi dans des personnes qui, malheureusement, l'avaient abandonné, l'avaient déserté. Ça fait mal. Nous voyons également que Paul avait un cœur, une personne qu'il décrit ici, l'avait abandonné, mais est revenu. Paul l'accueille à bras ouverts. Donc, il a un côté de lui qui pardonne, même si parfois, on le perçoit comme étant dur avec certaines personnes. Et nous apprenons finalement que Paul avait également des ennemis qui lui avaient fait beaucoup de mal. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, « Les alliés et les adversaires du ministère », parce que ceux qui sont dans le ministère, avec la longue, auront des amis, auront des gens qui vont les abandonner, auront des gens qui ont été très loyaux, auront des ennemis, et ainsi de suite, ça continue. Donc, ce que nous apprenons dans cette section de conclusion, c'est que, aussi, le ministère se compose de relations personnelles. C'est quelque chose qui se fait avec des personnes. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'on peut être très branché pour faire des choses, des événements, créer des ministères. Mais il ne faut jamais oublier que le ministère avant tout, c'est personnel. Ce sont des gens, ce sont des relations multifacettes. Car il y a beaucoup de gens qui influencent notre ministère. Donc, ce que je propose de faire maintenant, c'est de faire un survol de ces personnages ou de ces groupes de personnages et de les examiner une à la fois ou à la fois, brièvement sur certains, parce que sur certains, on a très peu d'informations, peut-être carrément juste le nom. Donc, pour certains, ça ira plus vite que d'autres. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre sur Paul et surtout sur le côté relationnel de cet homme et apprendre comment nous ne devrions jamais oublier que notre Église, avant tout, doit être une Église de relations personnelles. C'est intéressant, j'ai un frère qui est banquier à Genève, enfin il est à Nyon, et je me rappelle il y a quelques années en arrière, on est allé manger, et donc sa banque était très grande à Genève, et alors on discutait, et je lui dis, alors tu sais, qu'est-ce que tu fais à la banque exactement tous les jours? Est-ce que la plupart de ton travail c'est de compter des chiffres? C'est ça que tu fais, tu comptes l'argent, et tu débites, tu ajoutes? Il a dit, John, tu comprends pas, 80% de mon travail de banquier, c'est des relations personnelles. Et ça m'a soufflé. Je me suis dit, les banquiers, ils comptent l'argent. Alors oui, bien sûr, ils comptent l'argent, mais c'est peut-être les ordinateurs qui comptent l'argent, je ne sais pas trop. Mais il y a beaucoup de relations personnelles. Et je pense que dans tout travail, dans tout métier, souvent, c'est comme ça. C'est les relations personnelles. Donc, regardons ces 10 personnes, ces 10 groupes de personnes proches de Paul, et voyons comment ils ont influencé son ministère d'une manière ou une autre. D'accord? Alors, numéro un, Timothée, son fils désiré. Timothée, son fils désiré. Verset 9. Viens au plus tôt vers moi. Alors, vous savez que Paul écrit cette épître à Timothée. Timothée qu'il avait laissé à Éphèse pour remettre de l'ordre dans l'église. Et là, il demande à Timothée de revenir à Rome ou de venir à Rome pour visiter Paul qui est en prison. Donc, c'est vraiment un ministère de prison. Et regardez, le verset 21 nous donne encore une petite nuance. Il y tâche de venir avant l'hiver. Donc, l'hiver approche, et il aimerait que Tite vienne avant l'hiver. Mais vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'il vienne? Eh bien, le verset 10 nous donne la raison. Car Démas m'a abandonné. C'est triste à le constater. On reviendra sur lui en plus de détails. Mais on voit que dans les derniers moments de la vie de Paul, moi, j'imaginerais Paul avec son ministère, son long ministère de fidélité, avec tout ce qu'il a subi. Moi, je me suis dit, c'est le moment qu'il ait se trouvé une villa au bord de la mer, à la Méditerranée, et qu'il puisse enfin se détendre et prendre sa retraite. Eh bien, non, pas du tout. Pour lui, c'était pas du tout comme ça. C'était le contraire. Paul, devant ses dernières heures de vie, doit subir une dernière épreuve, celle de l'abandon d'un ami fidèle qui s'appelle Démas. Alors, avec Démas qui part, on y reviendra, il demande à Timothée de venir quelque part, peut-être pour le remplacer, de venir lui rendre visite pour qu'il ne soit pas totalement seul. Alors bien sûr, il y a quelques autres avec lui, ça on verra. Mais il veut vraiment la présence de Timothée, c'est un réconfort pour lui. Alors bien sûr, Timothée n'était pas n'importe quel ami pour Paul. Dans chapitre 1 et le verset 2, eh bien Paul écrit à Timothée, il l'appelle Timothée, mon enfant bien-aimé. Mon enfant bien-aimé, dans Timothée aussi. C'est Paul, vous rappelez, qu'il avait amené au Seigneur, bien qu'il avait été élevé par sa grand-mère et sa mère qui aimaient le Seigneur. Semble-t-il, c'est Paul qui l'a vraiment amené à une foi personnelle en Jésus-Christ. Et c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 4, moi c'est vrai qu'en regardant ce portrait, je me dis, on aimerait tous avoir des Timothées dans nos vies, n'est-ce pas ? 1 Corinthiens 4 et le verset 16, il est dit ceci, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, pour cela, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée. » Donc Paul dit qu'il envoie Timothée comme émissaire à Corinthe, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout et dans toutes les églises. Dans Philippiens 2, il l'appelle un encourageur. Dans 2 Timothée 1, 3, 4, il l'appelle un ami cher qui lui manquait. Et on apprend dans Hébreux 13, 23 que Timothée, à un moment donné, vers la fin de sa vie, lui aussi a été emprisonné. Donc, ici, on voit Paul, ce côté humain, qui aimerait avoir son fils dans la foi à côté de lui. Et à côté de son autre ami Luc, parce qu'on va voir dans quelques minutes, Luc est aussi avec moi. Il y avait déjà Luc avec lui, mais il voulait que Timothée soit là aussi. Et donc, il lui demande de venir. On a tous besoin d'amis loyaux, d'amis proches. Des gens que quand on est avec eux, on va mieux. Quand ils sont absents, on va moins bien. On a besoin de gens comme ça. Alors, il faut se poser la question, est-ce que nous, on est comme ça pour quelqu'un ? Est-ce que ma présence est un encouragement ? Est-ce que quelqu'un, à la fin de sa vie, voudrait faire appel à moi ? Question intéressante. Deux. Quel contraste ! Démas, le déserteur déterminé. Verset 10. « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Alors, bon, on n'a que quelques lignes sur lui, mais c'est quand même intéressant. Abandonner ici, en grec, vraiment parle de laisser tomber, littéralement. C'est un mot très fort, très subit, très immédiat. L'idée ici, c'est qu'à un moment donné, Démas, de manière surprenante, personne s'y attendait, clac ! Il a claqué la porte, il a laissé tomber Paul. Et surtout, lorsque Paul avait le plus besoin de lui. Parce qu'on est où ? C'est la fin de sa vie. C'est là où il a peut-être besoin d'être réconforté. C'est juste avant son exécution. Et clac, Démas, il part. Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment, vraiment dur. Et c'est pour ça qu'il le note ici, bien sûr. Proverbe 17:17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ben, c'était tout le contraire pour Démas. Démas, à un moment donné, a réalisé que son amour pour Paul était conditionnel. Ah non, là c'est trop, moi je pars. Alors qui était cet homme ? Alors nous savons qu'il a été le compagnon d'œuvre de Paul. Ils ont œuvré ensemble pendant longtemps, dans Philémon. Alors il y a beaucoup de versets, alors je vais juste en résumer quelques-uns. Enfin, il n'y en a pas beaucoup sur lui, mais disons, on va voir beaucoup de versets aujourd'hui. Philémon 23 et 24, nous lisons ceci. « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas. » Il est là. Luc, mes compagnons d'œuvre. Alors c'est intéressant, il inclut Démas comme un compagnon d'œuvre et le met à côté de Luc. Luc qui est le grand ami d'une vie de Paul. Donc à un moment donné, Luc et Démas étaient des amis aussi proches de Paul, l'un comme l'autre. Et dans Colossiens 4, 14, il est dit ceci, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Deuxième fois qu'on voit Luc et Démas mis ensemble dans cette liste de salutations. Et donc, ces épîtres ont été écrites en plus pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome. Luc et Démas sont ensemble. Paul les appelle les deux compagnons d'œuvre et envoie de ces deux des salutations aux églises de leur part. Ça veut dire que Paul a eu une immense estime pour cet homme Démas. Un des plus proches collaborateurs, un des plus proches amis de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardez ce qu'il est dit dans 2 Timothée 4. Car Démas m'a abandonné, donc il m'a laissé tomber. Et pourquoi? Il le dit. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intriguant cette petite phrase. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors, déjà le mot amour, c'est le mot agapé. Et le mot agapé, c'est quoi? Car Dieu a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'agapé, c'est la forme d'amour la plus forte, c'est celui qui sacrifie, ça n'a rien à voir avec l'émotion, je sacrifie pour quelqu'un ou pour quelque chose. Dieu a sacrifié son Fils pour nous donner la vie éternelle. Démas a sacrifié son âme pour le monde. C'est ce qu'il dit ici, pour le présent siècle. Alors le monde, c'est quoi ici? Ben, le monde ou le présent siècle, c'est le monde, c'est une description du monde de ce côté de la tombe. Et c'est là où il y a tous les trésors terrestres qui s'y trouvent. Le siècle présent englobe beaucoup plus que juste l'argent ou les richesses. Mais le monde présent, le siècle présent, englobe les philosophies, les pensées du siècle présent. C'est tout ce qui compose la vie d'aujourd'hui. Si on veut une bonne description du siècle présent, c'est probablement 1 Jean 2,15, où il a dit « N'aimez point le monde ». Ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ok? La suite. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le monde, je dirais les valeurs, si on doit résumer les valeurs du siècle présent, les valeurs du monde aujourd'hui, eh bien, elles sont résumées là au verset 16. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil. Convoitise de la chair, c'est ce qui rend plaisir à la chair. Convoitise des yeux, c'est les trucs qu'on veut. Et l'orgueil de la vie, ben, c'est la fierté. Alors moi, j'ai une manière de me rappeler de ces trois choses. C'est ce que j'appelle les trois F. C'est un petit peu familier, mais vous allez comprendre. Fric, femme, fierté, d'accord? Fric, femme, fierté. Mais c'est un peu ça. C'est ça. C'est les choses, les possessions, c'est le sexe, la sexualité, et c'est l'orgueil de la vie. Et ça, c'est vraiment les valeurs du monde aujourd'hui. Éphésiens 2 nous dit en plus que tout ça, c'est mené par Satan. Éphésiens 2, 1, il a dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Voilà ce qu'on était. Voilà ce qui décrit le monde. Et Jean 12, 31 nous dit en plus que tout ça, c'est mené par le prince de ce monde qui est nul autre que Satan. C'est pour ça que Romains 12, 2 nous dit en tant que chrétien, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est là et veut nous conformer, veut nous tenter, veut nous prendre. Et nous, quelque part, en tant que chrétien, on dit non. Alors on doit vivre dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et donc à un moment donné, on dit stop à ces choses. Pourquoi? Parce que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous dit Romains 12, 2, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous, on a des valeurs différentes que celles du monde. Galates 1, 4, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Donc, Démas avait un gros problème. À un moment donné, il a dit stop au Seigneur. Alors je pose la question. Est-ce que Démas était un chrétien ou pas? Vous faites un vote? Est-ce qu'il était chrétien ou pas? Il a abandonné Paul pour amour pour le siècle présent. Alors, est-ce qu'il était un chrétien qui est tombé dans le péché? Ça arrive, hein. Chrétiens peuvent tomber, parfois très profondément dans le péché. 1 Jean 2,19 semble indiquer qu'un vrai chrétien, tôt ou tard, reviendra au Seigneur. Un chrétien qui pêche, comme le roi David. Le roi David a péché, comme il adultère, il a commis le meurtre, mais il s'est repenti, il est revenu au Seigneur. Il a composé le psaume 32, le psaume 51 comme confession. Ou est-ce que Démas était un non-chrétien, comme Judas, un faux? Il était là, on croyait qu'il était chrétien, mais il n'était pas vraiment chrétien. Fils de la perdition, nous dit la Bible. Bien, je vais vous donner ma pensée. Moi, je pense qu'il n'était pas chrétien, je vais vous dire pourquoi. D'accord? Parce qu'il y a un contraste marqué ici entre le verset 8 et le verset 9. Au verset 8, il est dit, désormais, Paul dit, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans le jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui l'auront aimé son avènement. Le mot agapé. Il y a un contraste entre le verset 8 et 10. Le chrétien agapé son avènement, il sacrifie pour cet avènement. Un non-chrétien, je pense, sacrifie sa vie pour le monde. Tu ne peux pas trouver un mot plus fort. Tu ne peux pas trouver un mot plus fort. Il est aimé le monde au lieu de l'avènement de Jésus-Christ. Et bien sûr, ça nous rappelle Matthieu 7, 22, où il est dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est dur, hein? C'est dur. Non, à un moment donné, eh bien, Démas, je pense, ça c'est qu'une opinion, mais je pense qu'il a révélé ses vraies couleurs, un peu comme Judas, comme quoi il n'était pas vraiment chrétien. Et ce qui est inquiétant avec ça, c'est qu'il avait été ami plus proche et collaborateur plus proche de l'apôtre Paul, listé avec Luc. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ce qui est certain, c'est qu'il pensait que son âme pouvait être mieux satisfaite dans la ville de Thessalonique, parce qu'il est parti, par amour pour le siècle présent, il est allé à Thessalonique. Est-ce qu'il pensait que Rome était dangereux? Il y a un chrétien était là, il y a Paul, il était connu. Ils disent, ouh là là, attention, ça chauffe à Rome, moi, je pars. Il avait peur peut-être. On ne sait pas. Mais je pense que ça doit être un poignard pour Paul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, est-ce qu'un très très bon ami vous a abandonné un jour? Vous a laissé tomber. Et là, vous êtes là dans l'incompréhension, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà ce que Paul a ressenti, et surtout juste lorsqu'il avait besoin d'un ami très très proche. Heureusement que Timothée là, était là pour le remplacer. Et l'autre chose qui est dommage, et peut-être que si vous êtes là ce matin et vous dites, ah tu sais, moi j'en ai marre de la vie chrétienne, moi le monde il m'attire et j'ai envie de me plonger dans le monde. Ça peut arriver, peut-être vous êtes là, vous êtes le bord, vous êtes en train de dire, moi j'en ai marre, moi je veux retourner dans le monde. Écoute, on a tous des choix à faire, n'est-ce pas? Alors, juste un avertissement, si tu décides de faire ça, 1 Jean 2, 17, et le monde passe, et ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce serait dommage d'accabler le monde, de se donner à fond pour un monde qui un jour va tout disparaître. Il ne te restera rien à la fin, zéro, niette. Non. Non, écoute, investis dans les choses éternelles, parce qu'elles sont éternelles. Donc si tu n'es pas convaincu que tu connais Christ, c'est le moment, c'est aujourd'hui qu'il faut lui demander pardon pour tes péchés. Et lui dire, écoute, moi, j'en ai marre de ce monde. Moi, je veux vivre Jésus-Christ. Oui, il ne va pas te sortir du monde. Tu vas rester dans le monde. Mais tu vas pouvoir vivre sans être contaminé par le monde. Voilà ce qu'il veut. Trois. Cresson, Tite et Tichique. Ces émissaires des péchés. Regardez verset 11. On retourne à... de Timothée 4, verset 11. Cresson est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, et le verset 12, j'ai envoyé Tichique à Éphèse. Alors en fait, on ne sait quasiment rien sur le premier, Cresson, sauf qu'il est allé en Galatie. Ce qui est vraiment clair ici, c'est que Paul ne met pas ces hommes-là, ces trois que je viens de lister, dans le même camp que Démas. Démas est un déserteur, ces gens, ce sont des fidèles émissaires, très différents, d'accord ? Il est dans la même catégorie que Tite et que Tychique. Et donc, vous savez que Paul est allé démarrer de nombreuses églises en Galatie, qui fait partie de la Turquie aujourd'hui, lors de ses trois voyages missionnaires. Et là, Paul est en prison, il avait toujours bien sûr le fardeau de ses églises, voir comment elles allaient. Et donc, il envoyait des émissaires pour aller prendre des nouvelles, pour aller les encourager, pour porter ses lettres, etc. Et là, Crescent, ben, il l'envoie en Galatie, probablement pour encourager les églises. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Ensuite, il y a Tite. Lui, il a dit que Tite est allé en Dalmatie. Alors, Tite est un des nombreux fidèles compagnons de Paul. Dalmatie est la région de la Croatie aujourd'hui, sur la mer Adriatique, d'accord ? Alors, on a pas mal d'informations, bien sûr, sur lui, du fait qu'on a surtout son épître, n'est-ce pas, l'épître de Tite. Mais il a été souvent utilisé par Paul pour aller à Jérusalem une fois, pour aller aussi à Corinthe. Et nous apprenons dans Tite qu'il a été déposé à Crète, en fait, pour mettre de l'ordre dans ce qui restait à mettre dans cette église. Je t'ai laissé à Crète, verset 5 du chapitre 1, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors ça, je trouve intéressant. Tite, apparemment, est un collaborateur hyper fidèle, au point où Paul lui dit « Va à Crète, mets de l'ordre », donc il y avait le désordre, « et établis des anciens ». Donc, pour que quelqu'un ait la tâche d'établir des anciens dans les églises, veut dire que le gars, il tient vraiment la route. On le dépêche, on l'envoie, il met de l'ordre dans l'église, et il établit des anciens. Bien sûr, il est porteur de cette lettre, porteur, ou du moins il la reçoit plus tard de Paul, n'est-ce pas, pour l'aider dans cette tâche. La tradition, c'est que la tradition suggère que Tite, après la mort de Paul, serait retourné en Crète et serait devenu le pasteur jusqu'à sa mort dans cette île. Mais ça, c'est qu'une supposition. Ce qui est absolument certain, c'est que Tite est là, à Rome, pour le deuxième emprisonnement de Paul pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il l'envoie, il le dépêche pour qu'il y aille. Et ça nous mène à Tychique, verset 12. Tout ce qu'il dit, c'est que j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Alors apparemment, dans la même catégorie que Tite et Crescent, fidèle compagnon de Paul, un des amis plus proches de Paul, qu'il avait accompagné aussi sur le troisième voyage missionnaire, dans Acte 20, nous apprenons, il est avec lui pour récolter des fonds pour Jérusalem. Donc il est apparemment aussi un homme de confiance vis-à-vis de l'argent et des fonds qui ont été récoltés. Il était aussi avec Paul lors de son premier emprisonnement à Rome. Et nous savons Paul a écrit plusieurs épîtres, dont celle d'Éphésiens, et demande à Tychique, justement, de livrer cette lettre à Éphèse, selon Éphésiens 6, 21, et aussi à Colosse, selon Colossiens 4, 7. Un peu technique, mais au moins vous savez que tout ça, c'est clair et net dans la Bible, d'accord ? Et là, dans Tite 3, on voit Tychique est envoyé à Crète pour remettre de l'ordre dans l'Église. Probablement que c'est lui qui est le porteur de la lettre de 2 Timothée qui va de nouveau apporter à Timothée à Éphèse. Peut-être la chose que j'aimerais souligner par rapport à lui, Éphésiens 6, 21 nous dit ceci. Vous savez, c'est intéressant, il y a toutes des vies qui sont résumées parfois en un verset. 6, 21 nous dit « Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, écoutez, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. » Waouh ! Imaginez que Paul, est-ce qu'il pourrait dire ça de vous ? Est-ce que Paul pourrait dire de toi, toi, le bien-aimé frère ou sœur, d'accord ? Bien-aimé frère ou sœur et fidèle ministre dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être des Tychiques, des Tites, des Crescents. 4. Luc, son compagnon resté. Verset 11, Luc seul est avec moi. Alors, qui est Luc ? On ne peut pas tout dire, hein. Lui, il a vraiment une grosse part dans le Nouveau Testament. Peut-être une ou deux choses qui sont assez intéressantes. Dans Colossiens 4, 14, il dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. » Donc, on apprend qu'il était médecin et qu'il était bien-aimé, apparemment de Paul et je pense de beaucoup d'autres aussi. Nous savons qu'il était un compagnon fréquent avec Paul de voyage parce que si vous lisez le livre des Actes, de temps en temps, on sait que Luc a écrit le livre des Actes, et souvent, vous verrez où on lit « nous ». Nous étions, nous faisions ceci, nous faisions cela. Et chaque fois que vous avez « nous » apparaître, surtout dans les chapitres 16, 20, 21, 27, 28, eh bien, c'est Luc qui écrit, et il explique que lui et les autres, dont Paul, étaient ensemble. Donc, on sait qu'il accompagnait Paul sur son voyage périlleux à Rome, et il est là avec Paul à Rome. Il était aussi là avec lui pendant son premier et deuxième emprisonnement. On vient de lire que là, c'était sur son premier emprisonnement, donc il était là. Donc il est toujours avec Paul, en fait. Ce que j'aime beaucoup avec Luc, et là j'ai tout un message consacré à ça, j'ai pas le temps de le faire, mais est-ce que vous savez que Luc a écrit un tiers du Nouveau Testament? Il a écrit l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Et si vous mettez ces deux livres ensemble, c'est un tiers du Nouveau Testament, écrit par un homme. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il a écrit le livre de Luc et le livre des Actes? Eh bien, il nous le dit. Au début de Luc, il dit « Plusieurs ont entrepris à composer le récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, etc. etc. » Et ensuite, il a dit au verset 3 « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Alors, c'est très intéressant que Luc ait écrit l'évangile de Luc pour convaincre un homme, Théophile, de la véracité des choses qu'il avait déjà entendues. Et dans Actes, verset 1 du chapitre 1, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, etc. » De nouveau, il continue maintenant avec le livre des Actes à écrire à Théophile. Qui veut dire... Alors Théophile, on sait très peu sur lui. Certains pensent qu'il est chrétien, certains pensent qu'il n'est pas chrétien. Moi, je pense qu'il est plutôt pas chrétien. Je pense qu'il était, il avait beaucoup entendu de choses, mais il n'était pas 100% convaincu. Et je pense que c'était un Romain que Luc essayait de convaincre pour le Seigneur et que Luc, et c'est ça qui m'étonne, a pris le temps de faire des recherches exactes et d'écrire un tiers du Nouveau Testament pour convaincre un homme de la vérité. Et là, je vois ce médecin bien-aimé avant tout comme un évangéliste. Un évangéliste. Il était prêt à se sacrifier pour amener une personne au Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait même pas ce qui est arrivé à Théophile. On n'a pas la réponse. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Nous, comme on l'a vu pendant tout ce livre, on est là appelé à répandre la parole de Dieu. C'est Dieu qui touche un cœur, c'est Dieu qui l'ouvre. Et Luc, oui, est né médecin, oui, était collaborateur, oui, était voyageur avec Paul, mais je pense qu'il était avant tout un évangéliste. Quelle loyauté vis-à-vis de Paul. Quel ami. Vraiment. Et j'espère que nous, dans nos métiers divers, c'est peut-être une leçon ici. Hein, on a toutes sortes de métiers, de professions diverses ici. Lui, il était médecin. Médecin, oui, évangéliste, à fond. Le fait qu'on ait une profession ne nous éclipse pas de cette responsabilité d'aimer les hommes, les femmes, les âmes. Et j'espère que le défi est lancé. Nous devrions tous, quel que soit notre job, quelle que soit notre profession, être impliqués dans l'œuvre du Seigneur, avec les dons que Dieu nous a donnés, dans l'Église où Dieu nous a placés. Cinq. Marc, le fils prodigue réintégré. Alors là, c'est vraiment intéressant. C'est tout intéressant, bien sûr. Marc, c'est qui ce fils réintégré? Regardez les versets 11. Luc est seul avec moi. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors, j'ai pas le temps de tout regarder son portrait, mais écoutez. Marc est de Jérusalem, acte 12-12, et c'est là où il y avait, vous rappelez cet incident, où il y avait une réunion de prière chez lui, et Pierre est libéré, il vient frapper à la porte, et la servante pense que Ils sont fous de croire que Pierre est vraiment derrière la porte, qu'en fait Dieu avait fait un miracle et que Pierre était là parce qu'ils avaient prié qu'il soit libéré. Il était libéré par un ange de prison. Bref, c'est chez Jean-Marc là. Sa mère était une femme qui aimait le Seigneur et lui, il était de cette maison. Dans Actes 13:13, il a été choisi par Paul et Barnabas sur le premier voyage missionnaire. Et dans Actes 13:13, et ça je vais quand même le lire parce que c'est important, vous vous rappelez cet incident-ci, il part en voyage missionnaire avec eux, et dans Actes 13, et le verset 13, il est dit « Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge et à Pamphylie, Jean. » Alors Jean, c'est Jean-Marc, parfois on l'entend comme Jean, des fois c'est Jean-Marc. « Jean-Marc se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Donc il a été choisi en tant que collègue missionnaire avec Paul, Luc et les autres, et à un moment donné, moi j'en ai marre, je pars. On ne sait pas pourquoi, il y a beaucoup d'idées, mais on ne sait pas pourquoi il s'est rendu à Jérusalem. Donc il part, il continue leur voyage missionnaire, ils reviennent à Jérusalem, et là il y a cet incident très connu dans le livre des Actes au verset 36 du chapitre 15. Quelques jours s'écoulèrent, c'est quelques années après que Jean-Marc les ait abandonnés. Après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quels états ils sont, en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surmené Marc. Barnabas dit, « Écoute, celui qui nous a déserté il y a quelques années en arrière, on le prend. » Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment entre qui ? Paul et Barnabas, les grands amis, clac, ils ont un clash. Regardez, c'est intéressant. Ce dissentiment fut assez vif. Imaginez Paul et Barnabas qui ont un désaccord vif. Pour qu'ils se séparent. Par l'un de l'autre. Division. Division dans l'œuvre missionnaire. Qui se sépare. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, donc c'était par rapport à cet homme, prend Marc avec lui, bien sûr, c'est le fils d'encourageur, hein, Barnabas, s'embarque pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, et il se divise. À cause de Jean-Marc. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que Jean-Marc, aux yeux de Paul, n'est pas très populaire. Parce que Paul était prêt à couper avec Barnabas pour ne pas prendre Jean-Marc. Vous comprenez ? Alors, c'est là qui est absolument étonnant de lire dans 2 Timothée 4, encore quelques années plus tard, la chose suivante. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Wow. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé entre la désertion, entre la division, et là, à la fin de la vie, où il dit, ramène Jean-Marc, parce qu'il est vraiment utile pour moi dans le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, dans Colossiens 4, 24, il le considère son fidèle compagnon. Et dans 1 Pierre 5, 13, on a même l'impression qu'il devient compagnon d'œuvre avec l'apôtre Pierre. Moi, je pense qu'apparemment, Jean-Marc, il doit y avoir une réconciliation à un moment donné. Il a dû aller vers Paul, je ne sais pas comment ils ont communiqué, ils ont dû se demander pardon. Je ne sais pas exactement qui a eu tort dans tout ça. Mais il y a une réconciliation qui s'est mise en place. Et ça, je trouve humble de Jean-Marc, humble de Paul, humble de Barnabas. Et ça m'a rappelé ce matin le psaume 51:19 qui dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Je pense qu'il y a une leçon. Il y a une leçon, c'est que quand on a des conflits, ça peut arriver, on doit tout faire humainement de notre côté pour essayer de rétablir la relation, pour essayer de rétablir une réconciliation. Très important. On essaye. Et dans ce cas-là, ça a vraiment marché. Ça, c'est super. 6, faut que j'avance. 6. Carpus, son hôte dévoué. Carpus, son hôte dévoué. Alors il dit quoi, là, au verset 13, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Alors on sait très peu sur Carpus, on sait qu'il habite à Troas, on ne sait pas pourquoi Paul aurait laissé son manteau, ses livres, ses parchemins chez lui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un problème, il y a eu une arrestation, quelque chose, il a dû partir rapidement peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que cet hôte, Carpus, avait chez lui le manteau de Paul. Alors c'était un manteau en forme de couverture de laine très épaisse, ces manteaux. Certains pensent qu'il y avait même un trou un petit peu comme un poncho à la mexicaine, sans bras, mais c'était vraiment ces manteaux très épais, très chauds pour l'hiver. On sait que l'hiver approche, hein, c'est ce qu'il a dit plus tard, au verset 21, donc il aimerait son manteau avant l'hiver. On a aussi des livres et des parchemins. Et des parchemins, des peaux d'animaux préparés pour l'écriture. Et probablement, les épîtres de Paul ont été écrits sur des parchemins parce que c'était une meilleure qualité pour écrire. On ne sait pas pourquoi il les a laissés là. Moi, ce que j'aime avec ce petit point sur Carpus, écoutez bien, Paul sait qu'il va bientôt mourir. Il l'a dit. Pourtant, il n'a jamais arrêté d'être un étudiant. Jamais. Il veut ses livres, il veut ses parchemins, parce qu'il veut encore bosser, il veut travailler. Il n'a jamais arrêté d'apprendre. C'est intéressant, même pour un homme qui a été inspiré par Dieu pour écrire la plupart du Nouveau Testament, ben il avait le côté humain où il étudiait aussi les choses. Alors ces parchemins, on ne sait pas ce que c'était, est-ce que c'était des portions des Écritures, on ne sait pas. Mais il n'a jamais arrêté d'apprendre. Et dans le livre qu'on est en train de lire ensemble en tant que comité fondateur, un livre qui s'appelle « Diriger avec amour » par Alexander Strauch. Et là, c'est le chapitre sur l'amour pour l'étude. Et j'ai lu ça, ça m'a vraiment inquiété. Un des auteurs dit ceci. « Nous avons constaté que la plupart des gens cessent d'apprendre vers l'âge de 40 ans. » Je relis. « Nous avons constaté que la plupart des gens cessent d'apprendre vers l'âge de 40 ans. » Moi, j'ai 53 ans, je suis cuit, d'accord ? Apparemment. Il continue. Nous entendons par là qu'ils ne cherchent plus activement à acquérir une connaissance, une compréhension et une expérience qui amélioreraient leur capacité à se développer et de faire du bien aux autres. La plupart se contentent simplement de ce qu'ils savent déjà. Ceux qui terminent bien conservent une attitude positive d'apprentissage toute leur vie. Beaucoup de gens, écoutez bien, ça me concerne, notamment les leaders plafonnent. Ils se satisfont de niveaux atteints et de ce qu'ils savent déjà. Cela se produit souvent lorsqu'ils ont atteint un niveau suffisant où ils se sentent à l'aise ou lorsqu'ils peuvent maintenir un avenir relativement sûr et prévisible, mais cette attitude contredit les principes bibliques de la gestion. Donc, ce qui m'impressionne ici, c'est que Paul continue d'étudier et d'apprendre jusqu'à sa mort. Et ce serait un défi à nous tous qui avons plus de 40 ans. Je ne vais pas vous demander de vous lever votre main. Mais apparemment, selon lui, si on a 40 ans, mes amis, c'est là qu'il faut mettre le turbo. C'est là qu'il faut maintenant se dire, maintenant, je pourrais, c'est la belle vie, j'ai mon expérience, j'ai mes connaissances. Non! Non, continue à plonger ton regard dans la parole de Dieu, dans d'autres domaines aussi, que nous continuons à apprendre. 7. On a bientôt fini. 7. Non, écoutez, le prochain, il est vraiment intéressant. Alexandre, son ennemi acharné. Qui est cet Alexandre? On va lire, regardez versets 14 et 15. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Alexandre est intéressant. Qui est cet homme? Alors le contexte est important. Le verset 16, c'est le contexte. Dans ma première défense. C'est important parce qu'on a quand même l'impression ici, que le verset 14 et le verset 15 sont liés. Il parle de sa première défense, donc le contexte est celui d'un procès, le procès dans lequel Paul se trouve à Rome. Et il a eu plusieurs occasions apparemment de se défendre contre les accusations portées contre lui. Alors Alexandre, dans ce contexte, aurait-il été un des accusateurs ou un procureur contre Paul? Surtout du fait que Paul dit ici qu'il l'avait fortement opposé les paroles de Paul. Est-ce que Paul avait donné sa propre défense et Alexandre était là pour contrarier les paroles de Paul et son témoignage? Le mot Alexandre, le nom Alexandre, un nom très commun à l'époque, comme Jean ou Dupont, c'était vraiment, il y en a cinq déjà dans le Nouveau Testament. Alors certains pensent que c'est peut-être le même qui se trouve dans 1 Timothée 1,19. Alors peut-être, mais j'ai un doute, je ne sais pas. En gardant la foi, une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On a l'impression que peut-être Alexandre habitait à Éphèse, lorsque celui dont parle Paul dans 2 Timothée habitait à Rome. Donc on a quand même l'impression que c'est deux Alexandres différents. Mais ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il était forgeron. Voilà, il était forgeron. Il fabriquait quoi? Bon, on ne sait pas. Mais il était forgeron. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il avait beaucoup de mal à Paul. Je trouve intéressant l'attitude de Paul à son égard. Ce n'est pas un mal, apparemment, de dénoncer quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, puisqu'il le fait. Il y a parfois dans nos milieux un sentiment qu'il ne faut jamais parler mal de quelqu'un, car cela ne reflète pas l'amour. Que la discipline est un manque d'amour, c'est cruel. Eh bien, Paul parle ouvertement de ceux qui lui ont fait du mal et donne même leur nom et leur métier. Comme intéressant. C'est hyper clair, hyper pointu. Et justement, peut-être qu'on se trompe. Peut-être le plus grand acte d'amour, c'est de confronter quelqu'un pour son mal afin qu'il puisse s'en repentir, n'est-ce pas? Alors, Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est intéressant, Paul dénonce Alexandre, mais il ne se venge pas contre lui. C'est ça la différence. Il laisse la vengeance à Dieu. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Et ça nous rappelle Romains 12 et le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Donc c'est pas un mal de dénoncer quelqu'un, de dire à quelqu'un « Tu m'as fait du mal ». C'est pas un mal de faire de la discipline d'église. Matthieu 18, vous pouvez lire. C'est juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de se venger contre quelqu'un, de lui faire du mal. Tiens, je vais t'avoir. Ha! Je vais te faire payer. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'attitude. On dénonce, tu m'as fait un mal avec le but de voir cette personne se repentir. Ça, oui. Ça, c'est juste. Alors, il dit, averti, Timothée qui va venir à Rome, garde-toi aussi de lui. Fais attention. Quand tu arrives à Rome, il va te vouloir faire du mal. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Alors, moi, je crois que la grande leçon ici, c'est que vous savez, mes amis, les ennemis font partie du ministère. Il y aura des gens qui vont vous aimer et il y aura des gens qui ne vont pas vous aimer. Bienvenue au club. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est clair. Paul est la preuve. Jésus est la preuve. Tous les gens qui étaient dans le ministère, tôt ou tard, ont des amis. Et tôt ou tard, ils ont des ennemis et des déserteurs. Et ça me rappelle dans Acte 20, qu'est-ce qu'il dit au verset 29 ? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ce qui fait très peur, c'est que parfois, ces gens peuvent venir de l'intérieur. Et ce qui était le cas pour Paul, ce qui était le cas pour Jésus aussi. Et c'est ça qui fait très peur. Ça, c'est la partie du ministère que j'aime pas trop, d'accord? Bon, honnêtement. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie, donc nous devons être vigilants, vraiment vigilants par rapport à ces choses. Je termine très brièvement le reste. Numéro 8, les personnes anonymes qui l'ont abandonné. Il dit tout simplement, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. À un moment donné, il y avait des gens qui étaient autour de lui, et ils l'ont abandonné. On ne sait absolument rien d'autre sur ça. Apparemment, c'était des soi-disant témoins pour le jugement. Ils ont eu peur, ils sont partis. 9. Dieu, son Seigneur célébré, ça c'est beau. Et ça, écoutez, c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Il dit quoi? Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Quel contraste! Tous ces gens m'ont abandonné, mais le Seigneur quoi? Jamais nous abandonne. Jamais. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. » Intéressant, n'est-ce pas? Vraiment intéressant. Oui, beaucoup de gens l'ont déserté, mais le Seigneur jamais. Hébreux 13:5 nous dit « Jamais il nous quittera ». Et là, lorsqu'il parle du Seigneur, il parle de Jésus, Jésus lui-même, selon 1 Timothée 1:12. Et c'est intéressant que Paul n'a toujours qu'un objectif dans la vie, d'être fidèle au Seigneur et de proclamer l'Évangile. Il est évangéliste jusqu'à la fin. C'est ce qu'il dit, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Je veux être un prédicateur jusqu'au jour de ma mort. C'est intéressant, il avait fait appel à César. Il y est. Vous vous rappelez, il a fait appel à César. Pourquoi? Pour lui annoncer l'Évangile. Moi, je crois que César, il y a beaucoup de gens qui pensent que César lui-même était le juge au procès de Paul, pour des raisons, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dedans. Mais si c'est vrai, si vraiment César qui détestait les chrétiens, qui a fait brûler Rome et il a accusé les chrétiens de brûler Rome, c'est César aussi qui cousait les chrétiens dans des peaux d'animaux, il les mettait dans les arènes et il lâchait les chiens pour venir les dévorer lentement. C'est César qui a mis des chrétiens et les goudronnait dans son jardin et il les brûlait, il les utilisait comme flambeaux. C'est César qui a fait ça. Néron, il détestait les chrétiens. Imaginez, Paul est devant Néron. Néron, moi je crois, a entendu l'Évangile. Clair et net. Clair et net. Prédicateur jusqu'à sa mort. Édice, le dernier groupe, ses amis ovationnés. Salut Prisca et Aquila et la famille de Nésiphore. Ce sont des gens, ils ont tous des portraits, mais ce sont des amis, des compagnons de Paul. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Petit point intéressant, Paul avait le don des guérisons, mais là, il laisse Trophime malade à Milet. C'est un des versets qui pourrait suggérer que le don des miracles et le don des guérisons, au fur et à mesure que le canon des Écritures était en train d'être terminé, que ce miracle baissait. Parce que le don des miracles, le don des guérisons, était une manière de confirmer la parole prêchée. Et là, c'est intéressant. Celui qui avait un des plus grands dons de guérison et des miracles, eh bien là, il laisse Trophime malade à Milet. Intéressant quand même de le contraster. Verset 1, tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Prudence, Linus, Claudia, on ne sait rien sur eux. Et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Et là, mes amis, nous venons de terminer 2 Timothée. Le ministère est vraiment des relations humaines, n'est-ce pas? C'est des relations humaines. Que Dieu nous aide dans notre Église, vraiment. Que Dieu nous aide. Être relationnel. On a, je crois, 31, 32, 33 nationalités. On parle des langues différentes, on vient de pays différents du monde entier. Mes amis, on doit vraiment mettre le paquet là-dessus. Parce que plus on est différent, plus on va être une tendance de vouloir s'écarter. Non, on doit faire l'effort de faire tout le contraire. Vraiment. C'est vraiment important. Alors, j'espère que vous êtes encouragés par la parole de Dieu ce matin. Excusez, c'était un peu long, mais c'est comme ça. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois. La série d'été commence la semaine prochaine. Je me réjouis, moi je serai là pour la première. Des personnages d'exception dans la Bible. J'espère que vous allez venir, que cet été va être une occasion d'amener vos invités, ceux qui visitent, ceux qui vous rendent visite. On va prier. Seigneur, merci de tout cœur. Quel bonheur de pouvoir être autour de ta parole ce matin. D'être ici, de pouvoir sonder les Écritures. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Christ, tu peux utiliser ce qu'on a vu ce matin, toutes ces relations, pour leur montrer qu'il y a plusieurs types de personnes. Mais Seigneur, toi tu bénis ceux qui sont en Christ, fidèles en Christ. Seigneur, pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour nos faiblesses. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi jusqu'au bout.